Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Voici un homme qui va en un rien de temps collectionner non seulement tout ce qui concerne le librettiste et compositeur Weichkern, contemporain de Mozart, mais aussi les ennuis, toutes sortes d'ennuis, d'enseignants, de contribuables, d'amants, de pères. Est-ce de sa responsabilité ou celle d'une société en évolution, en révolution même, ou encore la faute à la malchance? On peut penser à une conjonction de tout cela, mais surtout à la confrontation de deux mondes, celui de l'argent et de la possession, et celui de la connaissance et de la recherche. Et si on lit ce livre avec un grand intérêt, on peut y trouver aussi une raison de sourire devant tant de maladresse chez un intellectuel que les événements sortent de ses chères recherches et l'obligent à se confronter à certaines réalités. Une vie qui serait plutôt banale, mais que l'auteur réussit à rendre captivante, non sans une discrète ironie parfois, allant même jusqu'à nous entraîner dans un thriller. Il s'agit du roman intitulé « Le noyau blanc », édité chez Métayer, et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, l'écrivain allemand Christoph Heim, et son interprète, Stéphanie Neubert, la directrice du Goethe-Institut de Toulouse. Bonjour Christoph Heim. Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour Stéphanie Neubert. Bonjour. Et merci d'être venue jusqu'à nous et de vous faire l'interprète justement de cet auteur que nous sommes heureux d'accueillir. Alors, votre personnage central, Rüdiger Stolzenburg, 59 ans, chargé de cours à mi-temps à l'université de Leipzig, finit par comprendre qu'il ne sera jamais titularisé. Peu d'argent donc, mais une passion, et tout cela va l'entraîner dans des situations invraisemblables. Comment décririez-vous Rüdiger Stolzenburg?
Ach nein, dann würde ich eher sagen, er ist
je dirais pas qu'il s'agit d'un anti-héros, je dirais plutôt qu'il s'agit d'un héros qui, dans des temps précaires, essaye de garder la tête sur l'eau et comme ça, de en même temps, de faire quelque chose pour cette société en gardant la tête froide sur l'eau.
Es gab Berufe,
il y a encore 100 ans, ont existé des corps de métier qui étaient appréciés, admirés, y compris ceux des personnes à l'université. Aujourd'hui, on insiste à des situations précaires. Et aujourd'hui, c'est pas comme il y a 100 ans, un père ne voudrait pas forcément assister au mariage de sa fille avec quelqu'un qui travaille dans ces situations précaires, y compris à l'université.
Oui. Alors, effectivement, c'est quelqu'un qui est très courageux, qui est très désintéressé, qui a des passions. En même temps, il a des défauts. C'est un homme, il a des défauts aussi. Par exemple, il a un mépris assez hâtif sur ceux qui l'entourent, qui sont différents de lui.
Ich glaube, es war Martin Luther, der hatte gesagt,
comme disait le grand Martin Luther, le bon Dieu nous a fabriqué à partir de bois tordu. Des personnes sans faute, sans erreur, n'existent pas. Et moi, je veux bien bâtir mes personnages aussi à partir d'un bois tordu.
Alors justement, c'est ce qui rend son personnage très crédible. C'est le fait qu'il a à la fois des valeurs, mais il a à la fois des faiblesses.
Oui.
Vous êtes d'accord.
Sie sind einverstanden.
Ja, d'accord.
Alors par exemple, je pense quand même qu'il a, on en parlera ultérieurement, mais il est quand même assez égoïste, et je pense dans ses relations avec les femmes. Alors évidemment, je me positionne en tant que femme. Il a des relations compliquées avec son entourage, souvent. C'est un chercheur, donc c'est peut-être un solitaire, ceci expliquant cela.
Sie haben völlig recht. Er ist ein Einzelkind.
Vous avez tout à fait raison. Rüdiger Stolzenburg est un solitaire, et c'est vrai, il a des relations compliquées avec des femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais un grand nombre de mes protagonistes ont des relations compliquées avec des femmes. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais je l'ai constaté en observant ce qui se passe autour de moi.
Oui. Alors, là, il n'a pas de réponse donc à cela. Est-ce que finalement chez lui on pourrait penser qu'il se protège parce qu'il se donne tout à sa recherche.
Das wäre eine Erklärung, aber,
ce que vous dites, ce serait une explication possible, mais je pense que ce n'est pas tout. Selon mon expérience, je peux dire qu'il y a des hommes, aussi bien que des femmes, qui protègent un domaine, un certain domaine qui leur est cher, y compris vis-à-vis de leur partenaire, vis-à-vis de leur conjoint.
Oui, d'ailleurs, le personnage hein, le dit à un moment donné, il veut établir une certaine distance, toujours.
Aber das ist auch eigentlich meine Erfahrung mit Frauen wie mit Männern, dass diese Distanz gehört dazu, die braucht das Individuum, um existieren zu können.
Alors ça signifie que Christopher Hahn pense que les femmes aussi.
Il dit surtout que ça correspond à son expérience et à ses observations que l'individu a besoin de la distance. La distance est nécessaire, fait partie aussi de... La distance fait partie de la vie.
Ce qui rend Rüdiger sympathique, pour moi, c'est ce côté vulnérable. Alors, d'une part, c'est son travail, sa capacité de passion qu'il a pour sa recherche, et également cette... fragilité. Il semble complètement démuni dans un monde brutal. Et je pense en particulier à ces deux épisodes avec les jeunes filles, des jeunes filles très agressives, très violentes.
C'était la période avec les jeunes filles et encore ?
Oui, ces deux périodes, il y a deux agressions,
oui, deux agressions.
Dans la rue et dans le café.
C'est tout à fait choquant qu'aujourd'hui, non pas les jeunes gens, mais les très jeunes gens peuvent faire partie des gangs très brutaux. Et on assiste du coup à un vrai changement de la société. Avant, c'était des jeunes hommes. Aujourd'hui, même les très jeunes femmes peuvent faire un gang. Et le protagoniste vient d'une autre époque. Il est choqué par ce qu'il vit.
Oui, il vient d'une autre époque. Alors justement, on parle également de ce que je trouve ce côté également émouvant, sympathique, humain aussi. C'est lui qui a peur de perdre son pouvoir de séduction, mais en fait, c'est la peur de vieillir, c'est la peur de mourir. Et c'est ce qui se cache peut-être derrière ce désir forcené de rencontrer des femmes. Peur de la retraite aussi.
Ja,
j'en connais.
Das sind wahrscheinlich die.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu le climactérium masculin? C'est la peur qui le prend, c'est la peur de ces changements qui finalement finit par paralyser l'homme. Tout à fait.
D'accord. Alors, venons-en à sa profession. Rüdiger Schlossenburg a une situation professionnelle et matérielle difficile. À quoi est due cette stagnation professionnelle?
Das sind Probleme, die wir in ganz
Alors,
Europa haben.
Ce qu'on voit dans le roman est finalement un problème que l'on peut observer dans toute l'Europe et en Asie et en Amérique du Nord. On assiste à un changement du monde de travail assez fort. Tout va plus vite, tout doit être moins cher. Même les postes à l'université, que autrefois étaient considérés comme postes sûrs, sont aujourd'hui des postes qui ne sont plus sûrs du tout, qui amènent à des situations incertaines, précaires. Et d'ailleurs, on parle en Allemagne de précariat. Aujourd'hui, la classe moyenne peut tout à fait être demain ruinée. Ou celui qui appartenait avant à la classe moyenne n'est plus protégé de la ruine ou de la banqueroute matérielle.
D'accord. Est-ce que ça signifie aussi que l'État se désintéresse de la recherche et des études liées à la littérature, à la culture globalement, et se tourne exclusivement ou presque vers les sciences ?
Il est tout à fait vrai que l'État se retire. D'ailleurs, il se retire de tout ce qui est science et la culture et tout ce qui lui coûte de l'argent. On essaye en Europe de développer le mécénat selon le modèle des États-Unis, le modèle américain, où les anciens donnent des fonds, mais malheureusement, ce modèle ne marche pas du tout en Europe, où, après la Révolution française, nous avons une toute autre relation envers des établissements de formation. Alors aujourd'hui, les personnes qui bénéficient du plus grand estime et à l'université ou même au théâtre, ce sont des personnes qui sont les plus douées pour l'acquisition de contrats avec l'industrie, pour l'acquisition de fonds, d'institutions financières, d'aides financières. Ceci représente vraiment un très 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 grand changement aujourd'hui dans la société en général.
Mais Christoph Hein, est-ce que vraiment Weisskern est certainement un personnage intéressant, mais il n'intéresse plus. Est-ce que vous pensez que Rüdiger a raison de continuer dans cette recherche-là?
Ja, das ist mit ein klein wenig Ironie von mir beschrieben.
Alors, j'ai décrit avec une prise d'ironie une tradition universitaire qui appartient au 18e, 19e, 20e siècle, que les universitaires ont un dada, ont une niche, et ils cultivent ce dada pour que, à la fin de leur vie d'universitaire, ils peuvent publier 10 tomes réservés à ce dada. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout.
Est-ce que c'est une question de moyens?
Je dirais que c'est une question à la fois des moyens et de l'intérêt, puisque on a aujourd'hui encore des domaines ou des niches où le public a un intérêt pour des recherches très pointues. Par exemple, si quelqu'un s'intéresse à un artiste comme Bob Dylan, ou à un autre artiste pop, là, ça marche encore.
D'accord. Oui, oui. Alors, quand on lit votre ouvrage, Christoph Hein, on voit quand même qu'il y a une nostalgie. Par exemple, maintenant, le constat, c'est l'apathie des étudiants, le manque d'intérêt généralisé. Il n'y a même pas de recours contre les fraudeurs. Il y a une forme de désenchantement. Est-ce que vraiment vous êtes désenchanté par rapport à cette situation-là?
Je ne dirais pas que j'ai de la nostalgie. J'essaie plutôt de développer une plus grande ou très grande compréhension pour ce qui se passe et puis de faire une description la plus exacte possible, sans tristesse, sans amertume, sans haine, sans pitié. J'observe ce qui se développe comme nouvelle tendance, y compris les tendances terribles, mais je décris et je ne suis pas nostalgique.
Christoph Hein et Stéphanie Neubert, je vous propose une pause musicale et nous reprenons tout de suite après.
Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. cœur et faut du courage. Mais tout est possible à mon âge. Si tu as la force et la foi, l'or est à portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas.
N'y va pas. Il y a des tempêtes et des naufrages. Le feu, les diables et les mirages.
Voilà, nous retrouvons Christophe Hein et Stéphanie Neubert, brillante interprète. Je maintiens. Pour un ouvrage intitulé Le Noyau Blanc et édité par les maisons, la maison d'édition Métayer. Et nous parlons donc de cet homme, Rüdiger Stoltenberg, qui a vécu une première partie de sa vie en RDA, avec les inconvénients qu'il a d'ailleurs vécu, ce personnage, et les avantages, à savoir une place plus importante donnée à la culture. Et on le sait que même en Russie, d'ailleurs, c'était le cas. Et là, il se trouve confronté à un changement total dont il pâtit lui-même. Alors, évidemment, il pâtit en particulier d'un manque d'argent, puisqu'on ne lui a accordé qu'un demi-salaire, un demi-poste, donc un demi-salaire. Alors, je pense que, Christophe Hein, je vais vous faire rire, parce que Toulouse est la ville de l'aviation en France, vous le savez. Et un spécialiste de l'aviation m'a dit, par exemple, les avions russes étaient remarquables, extrêmement puissants, mais absolument pas rentables. Ils coûtaient un prix fou et leur consommation était exorbitante.
C'est correct.
Oui, c'est vrai. Oui, alors, voilà, il me semble que les difficultés professionnelles et financière de Rüdiger, je vais raccourcir parce que Stoltenberg, ce n'est pas toujours facile pour moi, sont liés à ce changement de société, ce changement de régime, même politique et économique, mais aussi à son propre comportement. Est-ce que je me trompe?
Il
est vrai que les difficultés de Rüdiger Stoltenberg tiennent aussi à sa personne. Il devrait être plus souple, il devrait beaucoup plus s'adapter à son environnement, à la nouvelle situation, mais il ne veut pas. Évidemment, il y a des collègues à l'université qui sont beaucoup plus souples que lui, et il faut dire que la souplesse ou la possibilité d'adaptation est une vertu très prisée dans beaucoup de sociétés.
Oui, oui. Alors, en fait, il est déchiré par son désir justement de ne pas s'adapter à cette structure qui existe. Et en même temps, il a besoin d'argent, mais de toutes les manières, parce que il va avoir besoin d'argent pour assouvir sa passion, pour le fisc. Puisque les impôts lui demandent une somme phénoménale. Et puis pour sa fille, tout le monde lui demande de l'argent. C'est le plus malheureux des hommes. C'est ce qui rend aussi le livre, le roman amusant à certains moments.
Tout à fait, je veux m'amuser et je veux amuser un peu le lecteur aussi. Il est vrai que les exigences financières, les demandes d'argent deviennent très puissantes et on voit bien dans le livre qu'il y a plusieurs possibilités pour lui de traiter, de se comporter vis-à-vis de ses exigences pour pouvoir payer. Mais certaines possibilités équivalent pour lui à dépasser un seuil ou à franchir des barrières morales, en fait. Et à la fin, je laisse seul Stoltenberg et je laisse seul aussi le lecteur avec cette question. Comment il va finalement décider, quel comportement il va adopter, voilà. Quelle décision il va prendre.
Oui, l'avenir est ouvert au lecteur de continuer sa lecture.
Ach, ich habe es ganz gerne.
De toute façon, j'aime bien que le lecteur devient auteur. Nous savons que tout lecteur lit son livre et le lecteur lit le livre autrement que moi je l'ai écrit. Et donc cette fin est une invitation supplémentaire pour lui d'agir.
Alors, ce que j'aime beaucoup, Christophe Hein, dans votre roman, c'est que vos personnages ne sont absolument pas stéréotypés. Par exemple, ce jeune avocat qui s'appelle Clemens Gade, je ne sais pas comment.
Clemens Gade.
Gade, oui. Ou bien même cet étudiant, Sébastien Hollert, de prime abord, il est juge. L'un, il le juge vénal, attaché à l'argent, uniquement à l'argent. L'autre, il le juge stupide. Mais on voit petit à petit qu'il se révèle également autrement. Et d'ailleurs, Rüdiger, notre personnage, notre protagoniste, le reconnaît.
Das ist für mich wichtig, wenn ich...
Pour moi, c'est très intéressant de ne pas juger, mais au contraire, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre un personnage. Et même s'il s'agit d'un personnage négatif, je m'intéresse aussi à ce côté, à cet autre côté, le côté qui le rend intéressant, sans forcément excuser ses défauts de caractère, etc. Donc, je ne veux pas des descriptions monochromes. Je veux décrire un personnage qui est intéressant parce que il a plusieurs facettes, pas uniquement le côté attirant positif ou répugnant négatif.
Et alors, même chez Rüdiger, il y a ce côté qui peut-être déplaire aux femmes. En effet, c'est un collectionneur. Là, je m'arrête net parce que, bon, peut-être qu'il va pouvoir expliquer.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais encore une fois, le fait de collectionner des femmes, c'est un trait qui caractérise pas mal d'hommes machos. Et c'est assez répondu. Mais peut-être qu'il vous plaira quand je vous dis que, d'après mon observation, chez la jeune génération, il n'y a pas que les hommes qui collectionnent les femmes, mais les jeunes femmes collectionnent aussi des hommes.
Alors, moi, mon explication, c'était, pour moi, ce donjuanisme, c'était une manière de se rassurer, de ne pas vieillir, de ne pas mourir, d'être toujours dans la séduction, de plaire.
Dann sind wir wieder bei dem Anfangsthema.
Ça nous ramène à notre thème du début du climactérium masculin.
Alors, est-ce que ce n'est pas aussi, plus généralement, puisque vous dites que ça concerne également les femmes, du moins la nouvelle génération, est-ce que ça ne signifie pas aussi un repliement sur soi, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'impliquer, y compris dans une relation durable? On se protège.
Ja, ich stimme Ihnen völlig zu, aber das ist ein Weg, den die deutsche Gesellschaft.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en ce qui concerne la société allemande, c'est une tendance qui est en cours depuis des décennies même. Et d'ailleurs, en matière d'architecture, on voit les conséquences, puisque aujourd'hui, on construit beaucoup plus d'appartements pour des célibataires et des appartements pour familles sont en recul. La société allemande devient une société de célibataires.
Oui, on dit qu'à Paris également, il y a une majorité de célibataires maintenant. Alors, ce qu'il y a de vraiment passionnant dans votre ouvrage, c'est que cet homme, qui a somme toute une vie apparemment bien tranquille, a énormément, tout devient autour de lui compliqué et palpitant. Et même Henriette, cette nouvelle relation féminine, le lui dit à un moment donné. Elle dit, chez toi, tout est, je cite, « Chez toi, tout est très surprenant. Il y a un faussaire qui veut ton argent en échange de lettres anciennes qui sont des faux. Un commissaire de police entre en scène. Un groupe de filles te persécute. Une enquête policière se déroule dans un restaurant. À quelle surprise dois-je encore m'attendre? Le casse d'une banque? Tu es peut-être un espion ou un escroc au mariage, etc. etc. » Et effectivement, lui qui n'aspire qu'à une vie tranquille, solitaire, toute tournée vers sa recherche, vit un tas de catastrophes et d'ennuis, finalement. Mmh. Et ça, je trouve que c'est le côté qui moi, me remplit de joie.
Das freut mich zu hören. Es ging mir beim Schreiben auch so.
Je comprends tout à fait le souci et l'envie du héros, du protagoniste, d'une vie tranquille. Mais c'est vrai que en écrivant ce roman, j'ai pris aussi du plaisir à le confronter à des catastrophes et à des surprises embarrassantes. Et il fallait même que je fasse attention à ne pas en faire trop en ce qui concerne les catastrophes.
Oui. Alors, Christophe, Heine, vous parlez très bien du milieu universitaire, de même que vous parlez très bien de Weisskern et que j'avoue, je ne connaissais absolument pas. Est-ce que le milieu universitaire, vous le connaissez particulièrement ou c'est parce que vous avez fait des recherches là-dessus?
Non, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai fait pas mal de recherches. Et entre autres, j'ai eu un entretien avec la rectrice de l'Université de Leipzig. Et suite à cet entretien, j'ai même reçu des invitations de la part d'autres recteurs des universités allemandes que j'ai fini par décliner. J'ai préféré ensuite de continuer mes recherches sur le dossier, comme je le fais d'habitude.
D'accord. Alors, pour terminer, je voulais vous dire que je trouvais ce livre qui vraiment arrivait au bon moment, parce qu'il me semble qu'être fidèle à ses principes, à ce à quoi on croit, comme Rüdiger, ou succomber à la tentation de la facilité, du confort, de l'argent, disons-le, c'est un dilemme important, à mon avis, en cette période, par exemple, d'élections nationales dans plusieurs de nos pays.
Madame, ich stimme Ihnen zu, aber das ist ein ganz altes Problem.
C'est un problème très ancien, en fait, et un livre très ancien, qui est la Bible, décrit ce dilemme qui est comment, sur Terre, on peut être heureux et malgré tout arriver aux cieux. Comment est-ce qu'on peut être heureux sur terre et ne pas finir dans l'enfer.
Christophe Heine, un grand, grand merci. Dankeschön.
Merci, madame.
Alors, et merci à votre interprète, Stéphanie Neubert, parce que vraiment, vous avez été parfaite, selon moi. Voilà. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un roman intitulé Le Noyau Blanc, écrit donc par Christophe Heine et édité chez Métayer. Merci, au revoir.
Au revoir.